Exode au chapitre 3. C'est là qu'on s'en va, Exode chapitre 3. On a lu tantôt l'ensemble du chapitre, mais j'aimerais juste qu'on lise les versets 7 à 10 ensemble. Puis on va voir d'autres versets, d'autres passages dans le message. Mais c'est là qu'on commence ce matin. Donc Exode chapitre 3, à partir du verset 7, on peut lire « L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Canaléens, les Éthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici... Les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Seigneur, on te remercie qu'on peut prendre quelques instants avec ta parole vivante, ta parole qui est la vérité, qui demeure éternellement. Merci que tu te révèles à nous dans ta parole. Et merci, dans ce passage précieux, comme on l'a vu, tu as révélé ton nom et aussi ta mission de délivrance à Moïse, ton serviteur. Seigneur, enseigne-nous, toi qui es le vrai enseignant ici ce matin, Esprit du Dieu vivant, toi qui sondes les cœurs, puisses-tu faire l'œuvre que juste toi es capable de faire. C'est pour ça qu'on te prie maintenant, Seigneur, parce qu'on a besoin que toi, Seigneur, tu fasses ton œuvre. Merci, Seigneur, que tu le veux. Merci que tu es... là, présent au milieu de nous, pour faire en nous, au milieu de nous, infiniment au-delà de tout ce qu'on demande et même qu'on pense, afin que à toi soit la gloire dans l'Église. On t'a pris toutes ces choses, au nom de Jésus. Amen. Amen. Le message de ce matin a peut-être, je dirais, une saveur... Puis, je vais dire le mot politique, on pourrait dire philosophique, puis c'est pas que je vais prêcher de la politique, mais vous savez que... Ici, les politiciens sont rentrés dans la vie du peuple de Dieu. C'est pas comme eux autres qui voulaient faire de la politique, c'est que là, ils étaient contraints, de par les circonstances, à être face aux politiciens. Savez-vous, c'est un peu ce qui nous arrive aussi. On veut pas faire de la politique, mais la politique veut se mêler de notre vie, veut se mêler de pas mal de choses. Et le peuple de Dieu était face à cette situation. C'est pour ça qu'on voit non seulement ici, mais dans d'autres exemples qu'on va voir dans le message, qu'il y a un côté foncièrement biblique à ce qu'on va regarder aujourd'hui. Et c'était des moments dans l'histoire de Dieu où est-ce que vraiment le Seigneur a joué un rôle prépondérant pour se révéler dans un milieu hostile, méchant, et qui ici les faisait souffrir, hein, comme on l'a lu. Et donc c'est vrai pour nous aussi. On est encore... dans l'époque où est-ce qu'on vit, dans un monde déchu, dans un monde trompeur, dans un monde, on a prié tantôt, où est-ce que malheureusement, certains même tombent en proie au mensonge, à la tromperie de ce monde. Mais nous avons le même Dieu qui délivre.
Amen.
Le même Dieu qui vit éternellement.
Amen.
Le grand Je suis. Et vous savez, le nom de Dieu révèle quelque chose. Je suis, il y a un peu comme espace à remplir. Je suis votre bannière dans la bataille. Je suis votre paix. Je suis votre joie. Je suis votre... Je suis tout ce dont vous avez besoin. C'est ça, ça veut dire je suis. Je suis la réponse à absolument tous vos besoins.
Amen.
Je suis celui qui suis. Et donc, Dieu a révélé ça. Et c'était dans un contexte très difficile où est-ce que la nation complète est devenue sous le joug d'une nation perdue, rebelle, qui lui donnait de la misère. Mais Dieu s'est révélé au milieu de ça. Et ce qu'on va voir ce matin, c'est comment Dieu se révèle aux perdus, parce que c'est le thème du mois de novembre. Dieu s'est révélé aux Égyptiens. Dieu se révèle aux perdus. Et là, je vais vous sortir un mot que je vais vous définir. Dieu se révèle aux perdus du collectivisme. Hein, c'est quoi ça, collectivisme? Ben, je suis content que vous demandiez, parce que je vais vous l'expliquer. Le collectivisme, vous ne savez peut-être pas c'est quoi, mais lui, c'est quoi, puis vous en êtes... tous et chacun ici, brainwashed, comme on dit, laver la cervelle. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une philosophie politique qui cherche à mettre de la pression sur chaque individu dans la société pour qu'il se conforme au groupe. Et l'idée, c'est pour le bien commun de tous. Donc, l'individu est forcé de se conformer pour le bien commun de tout le groupe. Et notre société lave littéralement le cerveau de nos enfants avec cette philosophie, non seulement en ce moment, mais tout le monde ici depuis votre tendre enfance. Puis je ne parle pas juste de ceux qui ont été élevés dans des milieux communistes. C'est ce qu'on entend à l'école, c'est ce qui est enseigné. Et ce concept du collectivisme cherche à convaincre, à exercer une influence avec des slogans accrocheurs pour vendre leur salade. Et je veux dédier un message. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un temps où est-ce que c'est présent, puis il faut qu'on connaisse ces choses afin de ne pas tomber proie, parce que c'est des forteresses qui veulent nous amener captives. Et la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par la puissance de Dieu, peut briser, renverser ces forteresses, mais il faut qu'on en soit conscient. La plupart des gens en tombent proie parce qu'ils n'en sont même pas conscients. Et je crois que ça exerce non seulement une influence sur la société, mais sur les enfants de Dieu. Parce que la tromperie, le mensonge qui est utilisé dans le collectivisme, utilise beaucoup de concepts judéo-chrétiens, de concepts bibliques. Mm-hmm. N'est-ce pas vrai que c'est bien de souffrir pour le bien des autres? N'est-ce pas ce que Christ a fait? Donc, on dit, ben, c'est pas mauvais. C'est pour ça que je veux qu'on prenne le temps, parce qu'il y a une tromperie pernicieuse là-dedans. Et je veux que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur là-dessus. Ça va nous aider à tenir ferme dans la vérité présente. Et d'ailleurs, je crois que c'est pour ça aussi, à cause que le peuple de Dieu, non seulement la société, mais le peuple de Dieu est peu conscient de ces choses et tombé en proie à ces pièges. 2020-2021 l'a révélé abondamment. Alors, on veut considérer la parole, la pensée de Christ, avec l'idée de ce verset que vous connaissez bien dans Romains chapitre 12, verset 2, de ne pas être conforme au siècle présent, mais plutôt d'être renouvelé, transformé, pardon, par le renouvellement de notre intelligence, afin qu'on comprenne que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Et c'est ça que Dieu prend, c'est le moyen de Dieu pour bloquer les tromperies de l'ennemi, ou pour mettre les choses à l'inverse. Cette conformité du siècle présent, c'est un outil de l'ennemi pour essayer d'empêcher l'œuvre de Dieu. Vous savez, ça a été mentionné, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, c'est ce que j'aimerais qu'on voit. Un petit peu plus d'explication, parce que je sais que le sujet peut être un peu méconnu, nouveau pour plusieurs. Donc, juste un petit peu plus sur le collectivisme. Le collectivisme et les libertés individuelles sont à l'opposé. Je dirais même qu'ils sont des ennemis mortels dont un seul peut survivre. Le collectivisme valorise les chiffres, les statistiques, les résultats au détriment des valeurs et des principes éternels. Pourquoi? Parce que le collectiviste croit et prêche que le groupe est plus important que l'individu, et donc il doit se sacrifier aux besoins et même être forcé de se sacrifier pour le plus grand bien du plus grand nombre. Et à vous, vous entendez ça, vous dites, ouais, mais il n'y a pas quelque chose de chrétien là-dedans. Oui. Pour ça que ça peut semer à confusion. Parce que c'est précisément ce concept qui a amené Christ à la croix. Lui seul s'est donné pour le plus grand nombre, n'est-ce pas? Mais c'est aussi le raisonnement de l'homme déchu qui veut sacrifier un pour sauver l'ensemble. Parce que Christ, justement, avec son sacrifice, vous savez ce que... Le souverain sacrificateur, dans Jean 11, dit « Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Puis là, lui, il a dit ça sans savoir qu'il était souverain sacrificateur, puis c'était prophétique. Et c'est là que je vais amener une distinction importante. Écoutez bien, parce que c'est un point important. La différence, OK, l'idée, c'est... C'est pas qu'un sacrifie pour le pour le bien des autres, puis l'autre ne se sacrifie pas. Les deux peuvent le faire. OK? Christ l'a fait, puis c'est bon, puis c'est beau. La différence, c'est le libre choix. Christ, personne ne l'a forcé. Oui, on voit ces gens-là qui manigançaient, mais c'était tout arrêté par la main de Dieu. Et Christ lui-même, parce qu'il aurait pu juste claquer des doigts, puis il serait tout pulvérisé, celui qui voulait l'anéantir. Lui-même l'a fait par amour. Et donc, c'est là la différence. C'est que le collectivisme contraint, met de la pression pour qu'on fasse contre notre gré. La liberté, c'est si important. Et c'est ça que notre société est en train de perdre. Oh, la liberté, c'est pas si important, il faut la sécurité. Non, justement. Lorsqu'on perd la liberté, on perd la raison même d'être de tout ce qu'on fait. Parce que c'est dans la liberté qu'on exerce l'amour. Le collectivisme veut forcer de faire quelque chose contre le gré. Voyez-vous, c'est là la tromperie, c'est ça que la plupart ne voient pas. Maintenant, de tout temps, le monde n'a pas accepté les personnes qui se naient dans le chemin du plus grand bien, du plus grand nombre. On va voir avec ici Moïse, avec Shadrach, Meshach, Abednego, avec les apôtres à Jérusalem. Le monde ne tolère pas les dissidents, ceux qui osent questionner le mantra de la majorité. Mais j'aimerais vous dire que le plus grand bien du plus grand nombre, même si c'est accrocheur, il y a un problème moral fondamental là-dedans. Si c'est juste pris comme ça, puis qu'il n'y a pas de qualificatif moral, s'il n'y a pas le fondement de la parole de Dieu, ça peut être très dangereux. Je vous donne une illustration très simple. Vous savez que dans l'histoire des États-Unis, dans l'histoire de l'esclavage, il y a eu ce qu'on appelait à l'époque du lynchage. C'est horrible. C'est horrible, savez-vous quoi? C'était une foule qui avait la voix de la majorité, qui s'opposait à une personne. Il y avait une voix qui s'opposait. Puis elle devait subir des atrocités. Voyez-vous comment il y a quelque chose de moralement tellement mauvais là-dedans? La personne était contrainte de subir tout ça. S'il y avait cette pression, c'était punitif, peut-être qu'il y avait... était un endroit qui ne devait pas aller ou qui était juste la couleur de la peau qu'il y avait, puis, OK? Mais voyez-vous comment, moralement, il y a quelque chose qui est fondamentalement mauvais avec toute cette notion de collectivisme. L'absence de choix individuel par le collectivisme tue la moralité dans l'œuf. S'il n'y a pas de libre choix, il n'y a pas de moralité. Je vous l'ai dit que c'était philosophique un peu, mais je pense qu'on a besoin de réfléchir là-dessus comme peuple de Dieu. Maintenant, le collectivisme actuel s'attaque à la morale et à la loi de Dieu par la pression sociale qui est exercée sur nous. Et c'est exactement ce qu'on voit. Et Satan ne voudrait pas qu'on pense à ça. Satan ne veut pas qu'on pense aux implications morales de ce qu'on est en train de vivre. Mais il aime plutôt les slogans accrocheurs qui sont un masque, une façade contre la coquille vide morale du collectivisme. Ainsi, savez-vous quoi? Selon les principes bibliques, un système de loi qui protège les droits individuels, qui protège la liberté de choix, c'est ça qui est vraiment le plus grand bien pour le plus grand nombre. Puis ça vient de Dieu. Amen. Il nous a créés comme ça, c'est comme ça que lui a établi ses lois. Et là, Satan est en train d'inverser ça. Est-ce que vous voyez ce que j'ai mis la table, là? OK? Bon. Un dernier mot avant d'arriver avec le point. En fait, mon introduction est longue, mais mes points sont courts. Si on amène ça dans une perspective biblique, le principe du fait que Dieu se révèle aux perdus dans le collectivisme. Quand on met ça dans la perspective biblique, comme ici justement dans l'Exode, c'est que Dieu utilise cette pression-là, cette pression du collectivisme, cette pression sociale qui recherche, et il veut qu'on comprenne ici. Ici, c'est clair, vous allez voir, c'est clair dans les autres passages qu'on voit. Ce collectivisme, il y a un côté spirituel. Il recherche l'adoration, le culte exclusif à autre que Dieu. C'est là que c'est vraiment grave. Le collectivisme demande un dévouement, une loyauté indéfectible. Et c'est toujours le cas dans les exemples bibliques qu'on va voir puis dans l'histoire de l'Église. Ceci dit, Dieu permet cette pression exercer sur son peuple de Dieu, sur son peuple, sur ses enfants, afin que ces derniers, ses enfants, ceux qui connaissent son nom, ceux qui tremblent à sa parole, fassent ressortir que le résultat de cette pression-là soit un témoignage de qui Dieu est. C'est ce qui est arrivé ici. Ils vont savoir que l'Éternel est Dieu, puis il n'y en a pas d'autre. D'ailleurs, les 10 plaies, c'était une moquerie de tous ces dieux égyptiens. Puis ça leur éclatait au grand jour devant ces perdus-là qu'il y a un seul vrai Dieu. Amen. Donc Dieu est souverain, il s'est servi de ça pour révéler aux perdus qui il est réellement. Pas selon l'imagination de l'idolâtrie que les Égyptiens puis les nations autour avaient, mais selon la réalité de ce que Dieu est en vérité. Donc Dieu, dans sa souveraineté, dans sa sagesse, utilise la méchanceté et le mal du collectivisme idolâtre pour le transformer dans le bien suprême de faire des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce que lorsque Dieu se révèle, c'est ça que ça donne. Parce que lorsque Dieu se révèle puis que quelqu'un reçoit cette révélation-là, il tombe sur sa face puis il dit « Malheur à moi parce que devant un Dieu si saint, j'ai besoin d'être pardonné. » Et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on porte les yeux. Voyez-vous, je ne veux pas avoir un message de politique. Je veux ramener nos yeux sur la bonne perspective biblique de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Puis Satan a les mêmes vieilles tactiques qu'il utilise à différentes époques. Mais ça revient toujours au même. J'espère que vous êtes encore tous avec moi. Dites amen si vous n'êtes pas perdus ce matin avec ce que j'ai dit. OK, good. Non, parce que pour ça, j'ai pris le temps de mon introduction. Tu sais, j'ai quasiment l'impression d'être dans un cours de politique ou, je sais pas trop, de philosophie, mais comme j'ai dit, c'est par contrainte. Je veux dire, c'est les politiciens qui se mêlaient du peuple de Dieu. Puis c'est encore là. Moi, j'ai pas demandé là, que les politiciens viennent se mêler d'ici, mais c'est la vie. Tu sais, donc on fait face à ça. Et on amène la réflexion là-dessus. Maintenant, il y a une portée éternelle à ce qu'on considère aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les perdus, face au fait que Dieu se révèle, ils doivent reconnaître qu'il y a de salut en aucun autre. Vous connaissez le verset, hein? Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour lequel ne vient être sauvé. Savez-vous que c'est donné dans le contexte d'une pression sociale incroyable contre l'Église du Dieu vivant? Parce que les gens disaient, arrêtez de prêcher dans ce temps-là! Vous avez rempli Jérusalem de cet enseignement, puis vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Donc, il y avait ce collectivisme-là qui était là, mais voyez comment c'était l'occasion de prêcher aux perdus. Puis pour les sauver, dans un autre contexte avec Asaph, dans le psaume 73-28, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. » Lorsque Dieu se révèle comme ça au milieu des circonstances adverses, Dieu ramène à lui ses enfants pour qu'ils l'adorent. En esprit, en vérité. Maintenant, là, je suis rendu à mes points, vous allez voir son cours. On est ici dans Exode. Je veux juste qu'on voit trois exemples ensemble où est-ce que Dieu se révèle aux perdus dans le collectivisme. OK, donc c'est simple, vous allez voir. D'abord, Dieu se révèle aux perdus dans le collectivisme de l'Égypte. Parce que oui, il y avait une pression sociale, le roi qui disait « Ce peuple doit se sacrifier pour le bien du plus grand nombre. » Ils étaient contraints de le faire, puis lorsqu'ils voulaient exercer leur liberté d'adorer Dieu, ils étaient empêchés de le faire. OK? Le pattern est là. Et j'aimerais juste vous dire qu'on a un texte qu'on a lu ce matin, c'est un texte majeur de la révélation du Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que c'est dans ce contexte-là d'oppression, puis bon, c'est toute l'histoire rédemptive qui se développe, puis Dieu révèle son nom, c'est pas rien. Son nom, qui je l'ai dit, veut dire qu'il est celui qui est la réponse à tout, « Je suis celui qui suis ». Mais en plus, Idélie, il révèle sa mission de délivrance. Il dit, « OK, je suis celui qui suis, puis c'est moi qui vais opérer la délivrance. C'est moi, avec ma main étendue, qui va vous délivrer, qui va vous amener. Vous êtes esclaves, je vais vous amener dans la terre promise. » C'est une image de Christ, le Rédempteur, qui nous a pris du marché du péché, qui nous a rachetés, puis qui nous a placé en lui, dans la terre promise de ses promesses, de la vie qui est en lui. Amen. Donc, il révèle son nom, il révèle sa mission, puis il révèle aussi le moyen de sa mission, c'est-à-dire par sa puissance, par son bras étendu. C'était une action d'éclat. Dieu révélait comme ça qu'il n'était pas juste un idole impotent. Au contraire, il a pris vraiment soin de ses idoles importantes. Comme j'ai dit, il les a tous humiliés un après l'autre. Mais j'aimerais regarder avec vous dans Exode chapitre 6, juste quelques versets. pour amener ce point-là un peu plus loin, ça me dérange pas. Je vais enlever mon veston. Je sais pas ce que j'ai, j'étais un petit peu énervé aujourd'hui. Puis je me donne chaud. On va regarder versets 5 à 8. Exode chapitre 5, chapitre 6, pardon, verset 5. Hein, c'est l'Éternel qui parle et dit « J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans leur servitude et je me suis souvenu de mon alliance. » Donc, vous êtes là, j'entends tourner Exode 6, on est rendu au verset 6, je me suis trompé à quelque part? Tout le monde est là? Exode 6, 6, good. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, « Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. » Quelle promesse incroyable de l'Éternel. Il promet la délivrance. Il révèle qui il est, celui qui délivre. Mais je veux remarquer, j'ai arrêté au verset 8, mais regardez le verset 9. « Aussi merveilleuses et grandes étaient les promesses, ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. » Oh, il y a quelque chose là que j'aimerais qu'on regarde. Cette pression... Parce qu'on sait, hein, les travaux étaient de plus en plus pénibles. La pression augmentait. Est-ce qu'on trouve que la pression augmente en ce moment? Oui, mais savez-vous quoi? Ça peut avoir le même effet. On sait que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si on n'entend plus la voix de l'Éternel, si on n'entend plus la promesse de sa délivrance, de la vie qui est en Christ, de tout ce qu'on a en lui, oh, mes amis, ça va pas bien dans ce temps-là. Mais j'aimerais vous soumettre que c'est exactement là que Dieu voulait amener son peuple. Pourquoi? Oui, il a permis que les souffrances augmentent au point que c'est ça. Moïse leur parlait, puis c'est comme il parlait dans le vide. Pourquoi? Parce qu'il voulait les inviter à le considérer, lui. C'était pas juste Moïse, c'était pas juste un gars qui parlait. Puis Dieu a vraiment voulu leur attention. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'ils considèrent lui, sa délivrance, puis faire confiance à son plan. Dieu finit par avoir leur attention, mais il voulait les amener à ce point-là. Amen. C'est tout par rapport à moi.
Amen.
Vous savez, les gens disent, puis il y a des faux prophètes qui disent, « Ah, la vie, c'est tout par rapport à avoir your best life now. » Vous savez, vous, je crois que cette doctrine est née en enfer, puis j'espère qu'elle va retourner là, parce que c'est faux. Non, mais c'est... La vie chrétienne n'est pas une vie sans souffrance, puis je veux pas de problème, puis tout ça. Non, Dieu rencontre son peuple là où est-ce qu'il y a de la souffrance. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu montre qu'il est le seul vrai Dieu, et c'est comme ça que Dieu se révèle non seulement à son peuple, mais aussi aux perdus. Vous savez que les chrétiens souffrent pas comme les autres qui ont pas d'espérance. Il y a la marque de Dieu même sur un chrétien qui souffre. C'est pas pareil. Lorsqu'un enfant de Dieu est éprouvé, il regarde à son Dieu, il glorifie son Dieu parce que c'est en lui qu'est sa confiance. Et ça, c'est un témoignage pour les autres autour. Donc, tout est par rapport à Dieu qui veut s'assurer que tous croient et reconnaissent qui il est tel qu'il est. Et je voulais en rafale là-dessus, le fait que Dieu prend ça en cœur, des références ici, je vais juste vous les lire, ça va être plus rapide, mais Pharaon, lorsqu'il parlait, lorsqu'il y avait des échanges avec Moïse et Pharaon, Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Il a dit aussi, ça dit aussi dans chapitre 7, verset 5, « Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. » Et finalement, chapitre 9, verset 16, ça dit, « Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. » Tout ça, ça nous montre que, OK, c'est vrai, les Égyptiens, la majorité, Pharaon inclus, ils ne voulaient pas connaître. Ils ne connaissaient pas l'Éternel, puis ils ne voulaient pas le connaître. Mais Dieu s'est fait connaître pareil. Que ce soit par le jugement ou que ce soit dans sa grâce, parce qu'il n'y a qu'un été sauvé là-dedans, ouais. Dieu s'est fait connaître. Amen. Et c'est ça le plus important pour nous. Et donc, sur ce premier point, on doit simplement, comme ici dans la situation, continuer à garder nos yeux sur celui qui est notre délivrance.
Amen.
Sur celui qui est vivant. Et le reste, on laisse en ses mains. Le plan, je ne suis pas sûr que tout le monde l'avait approuvé. S'il y avait eu un comité, une espèce de réunion administrative du peuple d'Israël, voici, on va sortir d'Égypte comme ça, puis ça va donner tout ce trouble-là. Je pense que juste Moïse et Aaron qui seraient sortis, les autres seraient tous restés chez eux. Mais ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Dieu, dans ce sens-là, il n'est pas très démocratique. C'est un roi autoritaire. Puis lui, il peut dire « It's my way or the highway ». Mais c'est bon, parce que c'est toujours la meilleure façon. Donc, ça m'amène au deuxième exemple. Non seulement on a ici le Dieu qui se révèle aux perdus dans le collectivisme de l'Égypte, mais si vous venez avec moi dans Daniel au chapitre 1, on va voir comment Dieu se révèle aux perdus dans le collectivisme des Babyloniens. Ou de Babylone. Daniel au chapitre 1. Et là, c'est ça. On pourrait lire beaucoup, beaucoup de versets. En fait, j'en ai mis par écrit pour sauver du temps. Mais je veux juste qu'on lise un verset que vous connaissez bien. Et on va partir de là pour situer le contexte de Daniel. Mais dans Daniel au chapitre 1 et verset 8, ça dit « Daniel, résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne le pas l'obliger à se souiller. » Croyez-vous qu'il y avait une pression? Croyez-vous qu'il était appelé à se sacrifier, lui, pour le bien commun? Exactement la même affaire dans un contexte différent. Et on a vu ça aussi, on voit ça aussi, pardon, avec Shadrach, Meshach et Abednego. Hein, où est-ce que lorsque le roi avait fait cette grande statue, tout le monde devait se prosterner lorsqu'il jouait de la musique. Et quelle a été la réponse lorsqu'il y avait leur deuxième chance, ces trois amis, lorsque le roi est allé les voir, il dit « Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. On ne va pas céder à la pression. Et que nous n'adorerons pas ta statue que tu as élevée. Voyez-vous comment c'est vraiment la pression, ultimement, d'adorer un autre dieu que le Dieu vivant. Et dans Daniel chapitre 6, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Dieu se révèle aux perdus du collectivisme babylonien. Ces trois passages ont tous en commun les éléments suivants. Il y avait une pression sociale très forte. De conformité. Okay? Donc, contre leur gré, ils étaient appelés à se conformer. C'était une situation sans issue qui exigeait une prise de position afin d'expérimenter la délivrance de Dieu. Ils ne pouvaient pas se délivrer eux-mêmes, mais ils étaient appelés à se tenir dans la confiance qu'il y avait en l'Éternel en s'attendant à sa délivrance. Puis eux, ils ont dit, Dieu, tu sais, ils s'attendaient, Shadrach, Meshach et Abednego, par exemple, OK, s'il faut qu'on meure, c'est pas grave, on va aller voir notre Seigneur, mais sais-tu quoi? On va pas céder à cette pression. Puis on a eu la délivrance, même physique. On sait comment l'histoire a terminé. Et c'est pareil aussi avec Daniel dans la fosse aux lions. Un autre élément qui est commun, non seulement avec une pression forte, c'est une situation sans issue qui exigeait de prendre position pour voir la délivrance de Dieu, mais aussi, dans les trois cas, il y a eu une révélation de la personne et de l'œuvre de Dieu par le moyen de sa délivrance. Dieu a révélé quelque chose sur qui il est et sur qu'est-ce qu'il fait à travers la délivrance qu'il a opérée face à des enfants, ses enfants, qui avaient une confiance en lui qui était inébranlable. Dieu s'est révélé par ce moyen-là. Et dans une moindre mesure, j'aimerais soumettre ce matin que ces trois éléments sont encore aujourd'hui, en ce moment, en 2020, au Québec, présents. Hein? C'est quoi j'ai dit? Ah, ben, puis les deux. Mais, je veux juste amener, on doit garder les yeux, OK, pas sur la pression sociale, ça va nous décourager, puis on risque d'écraser sous la pression. Puis pas non plus juste sur le fait que la situation est sans issue, parce que Dieu est l'issue, mais on doit garder les yeux sur le fait que Dieu est celui qui délivre et qui veut révéler quelque chose sur lui et sur ce qu'il fait, son œuvre, à travers ça. Dieu veut se révéler aux perdus dans le collectivisme du Québec, du Canada, le collectivisme présent. Et c'est comme ça que Dieu le veut, c'est dans la situation dans laquelle il nous a placés. Et mes amis, qu'on apprenne à le voir comme un privilège. On a peur, puis on n'aime pas ça. Puis moi, j'aurais pas choisi 2020-2021 comment ça a tourné. Mais Dieu a décidé ainsi. Qui sommes-nous? Demandez à Job. Qui sommes-nous pour dire à l'Éternel c'est quoi ses plans? Il peut faire ce qu'il veut. Personne ne lui dit quoi faire. Et ça nous illustre, non seulement avec le peuple de Dieu qui était dans Israël, un gros groupe, mais ici, un faible reste. Parce que dans Daniel, il était juste un petit nombre. Peut-être que vous sentiez peut-être comme un faible reste à votre travail, dans votre famille. Ici, dans la province, on n'est pas grand-chose. On est qui, nous? Une coupe d'église. C'est quoi pour faire la différence? Ah, Dieu utilise un faible reste de gens comme ça qui gardent les yeux sur lui, qui restent confiants que le salut vient de l'Éternel. Amen. Et que Dieu aime à se révéler. Amen. Dans ces circonstances. Amen. C'est là que nos yeux doivent être. Ça l'amène au troisième exemple ce matin. Dieu se révèle aux perdus du collectivisme de Jérusalem. Et là, on s'en va dans Actes au chapitre 4. Actes au chapitre 4. Et j'ai presque fini de te partager ce que j'avais à cœur ce matin. On va juste lire quelques versets. Dieu se révèle aux perdus dans le collectivisme de Jérusalem. Et encore, vous allez voir, les éléments sont là, de conformité, de pression. Alors, on va commencer au verset 18, chapitre 4, Actes, chapitre 4, verset 18. Et les ayant appelés, ici c'est les apôtres, le Sanhédrin qui appelle les apôtres, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Et leur firent des nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir, à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Événement qui avait commencé dans le chapitre 3. Bon, cet exemple, ça continue aussi au chapitre 5, je vais y revenir dans un petit instant. Je dirais que dans un sens, c'est peut-être un peu plus proche de nous, dans le sens que c'est un collectivisme religieux dans un contexte urbain. Et oui, on l'a au niveau national, comme on a vu, mais savez-vous qu'aussi, au niveau de ceux qui se nomment de Dieu, il y a aussi la pression pour qu'on se conforme. C'est triste, mais c'est vrai. Puis c'est dans un contexte urbain, puis on le vit. Ou est-ce que c'est plus dur de passer sous le radar? C'est plus dur pour les enfants de Dieu de se cacher, mais aussi c'est plus dur pour les ennemis du peuple de Dieu d'étouffer leur témoignage. Alors regardez chapitre 5, verset 28. Ça dit, chapitre 5, verset 28. Ne vous avons pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Et dire, pour eux autres, ça commence à être dur là, de laisser tout ça sous silence. Mais il y a un autre élément important que je veux amener ici qui amène une nouvelle dimension à notre compréhension. Regardez chapitre 5, verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. J'ai amené ce point-là ici par rapport au fait que Dieu se révèle aux perdus dans le collectivisme d'une Jérusalem comme nous autres ici, une ville, puis avec le peuple de Dieu et tout ça. Je pense qu'il y a une réalité qu'il ne faut pas négliger dans notre contexte actuel. Savez-vous que je pense que c'est de plus en plus évident? Comme, en passant, bonne nouvelle de la Chine, nos frères, nos soeurs, la famille qui a fallu qu'ils partent sont arrivés finalement sains et saufs, tous fatigués, mais sont arrivés sains et saufs, sont au Québec. Gloire à Dieu, ça s'est bien passé. Donc oui, ils ont été chassés pour le nom de Christ, mais maintenant ils sont ici au Canada et on rend gloire à Dieu pour ça. Mais je voulais juste dire par rapport, c'est quoi je voulais dire donc? J'étais en train de perdre mon idée parce que j'ai parlé de la Chine. C'est ça, la réalité du contexte chrétien, du contexte actuel, où est-ce que, comme justement en Chine, vous savez, en Chine, c'est assez évident, une église d'État versus une église de Dieu. Savez-vous que pour nous aussi, ça commence à être de plus en plus évident, puis savez-vous que ça va amener aussi de la jalousie? Coudonc, il y a de la vie, c'est vrai, puis nous, coudonc, il manque de quoi? Il nous manque quelqu'un. Il manque la présence de Dieu. De Christ, son esprit. Et je veux qu'on puisse méditer là-dessus aussi. parce que ça devient une réalité de plus en plus palpable. Il peut avoir chez les détracteurs un sentiment de culpabilité, d'échec, face à ceux qui expérimentent la vie de Christ, la puissance de Dieu. Le contraste peut amener de la jalousie et de l'animosité. Mais j'aimerais vous soumettre ce matin que, là encore, comme je l'ai souligné, c'est une question d'adoration. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul.
Amen.
Tout est par rapport à l'exclusivité de l'adoration de Christ, notre chef, le chef de cette Église, et non pas Jésus plus, Jésus plus la crainte des hommes. Regarde, je vais laisser Paul parler là-dessus. C'est un puissant verset, Galates 1, 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Écoutez ce qu'il dit par la suite. Est-ce que je recherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Des paroles sobres et sérieuses. Voici où je vais amener ça ce matin. L'idée du message ici, je dirais, c'est pas tant juste l'idée collectiviste versus individualisme, mais plutôt conformité au monde versus la volonté de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, il y a de la pression. Il y en a toujours eu, mais là, elle est plus évidente et puissante que jamais. Mais non, le peuple de Dieu, on doit être transformé par le renouvellement de notre intelligence pour qu'on se rende compte, pour qu'on sache que maintenant, là, la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite.
Amen.
Et ça, lorsque le peuple de Dieu est saisi par ça, c'est comme ça que Dieu opère sa délivrance pour se révéler aux perdus autour de nous dans le collectivisme que nous vivons. Ou pour dire les choses autrement, la pression d'adorer les idoles que tous adorent, et on va être clair ici, le confort, l'aisance, pas de problème, que tous adorent et veulent, insiste que nous adorions nous aussi, versus la relation du Dieu vivant est de plus en plus évidente. Et connaissez-vous Ézéchiel 22, 30? Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Oh, mais c'est triste. Dans le temps d'Ézéchiel, il a dit, je n'en trouve point. Il a dit, du temps d'Ézéchiel, je n'en trouve point. Dieu a besoin simplement d'une personne qui brise le moule de la conformité par le courage de la foi, de la confiance en Dieu, comme Shadrach, Meshach et Abednego, comme Daniel, comme Moïse. Parce que cette personne-là reconnaît que Dieu est plus grand que toute la majorité.
Amen.
Tu mets tout l'univers ensemble, puis c'est un grain de sable devant l'Éternel. Et des personnes qui sont plus motivées pour la gloire de Dieu que l'approbation des hommes. La crainte de l'homme tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Moïse a vécu ça dès les débuts de sa vie. Et la Bible nous dit, son témoignage de foi, que Moïse préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. C'est exactement ce qu'on vit en ce moment. Veux-tu les trésors d'Égypte? Ou est-ce que Christ est une richesse qui est plus grande? Parce qu'il avait les yeux sur la rémunération. Christ était sa rémunération. Ils disent, ouais, mais c'est l'Ancien Testament, il n'était pas venu. Non, mais il l'attendait. C'était son espérance. Il savait que c'était la promesse que Dieu avait faite. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les chrétiens sont attaqués dans les pays communistes, dans les pays totalitaire, pourquoi on devient de plus en plus la cible des attaques de l'ennemi à travers l'instrumentalité de l'État, de la société? C'est précisément parce que Dieu, c'est un pattern, il y a un pattern du collectivisme, Dieu a un pattern de se révéler aux perdus dans le collectivisme. Pour ça qu'il y a une attaque, parce que Satan veut empêcher l'œuvre de Dieu. C'est pas par rapport à nous, là. C'est que Satan veut pas que Dieu révèle le grand Dieu qu'il est, que les perdus viennent à la connaissance de Christ, que le peuple de Dieu soit ravivé en lui. C'est pour ça qu'il y a autant d'opposition. C'est spirituel, la guerre, elle est spirituelle. Et lorsqu'un peuple sur lequel est invoqué le nom de Dieu, lorsque le peuple de Dieu se confie en lui, reste fidèle à sa parole sans se conformer, sans céder à la pression de la conformité, C'est parce que Dieu l'a transformé. C'est parce que cette personne-là, ce peuple-là, ne peut pas renier celui qui a eu tant de grâce envers lui. Mes amis, c'est ça l'idée. Pourquoi je me conformerais quand j'ai été transformé? Pourquoi je reviendrais à un chien qui revient à son vomi? Et en ce sens-là, celui, celle qui expérimente la grâce transformatrice de Dieu a un désir grandissant de faire connaître cette grâce et de celui qui l'a fait surabonder. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mes amis, c'est le trésor qu'on a dans ces vases de terre que nous sommes et qu'on partage à ce monde perdu. Si Dieu nous laisse encore sur cette terre, peu importe les circonstances, c'est accessoire, c'est pour ce but-là. Christ veut se faire connaître à ce monde et se faire connaître à son peuple. Pourquoi se réduire, se résorber à l'esclavage de la peur dans lequel notre monde est en train de vivre? C'est ce que ça dit. La parole inspirée de Dieu nous dit que Christ délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ça, c'est un commentaire de la parole vivante sur le monde dans lequel on vit. La peur, la peur, la peur. Pourquoi on se résorberait à ça? Nous qui avons été libérés, nous qui connaissons celui qui libère réellement. Je crois que c'était la motivation de Moïse. Il y avait la délivrance, la liberté, la terre promise. Christ, Daniel et compagnie, la compagnie apostolique. Et là-dessus, je vous laisse sur un exemple plus proche de nous. Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent William Pitt? Ou peut-être que si je dis, c'était l'associé, l'aide de Wilberforce. William aussi. Écoutez ce qu'il a dit, c'est une petite citation très courte. Mais il y a quelque chose, je veux juste vous amener, c'est comment la puissance de l'évangile de Christ touche à toutes les catégories de notre vie. Donc, M. Pitt a dit, la nécessité et la sécurité. La nécessité, c'est nécessaire. OK, il faut le faire. Donc, c'est l'idée du collectiviste, là, il faut que tu... La pression de se conformer, OK? Donc, la nécessité et la sécurité sont la demande et l'exigence de tout empiètement sur la liberté humaine. C'est l'argument des tyrans et le credo des esclaves. Celui qui a dit ça a été instrumental dans les mains de Dieu pour mettre fin au mercantilisme, qui était une traite d'esclaves incroyable. Les esclaves partaient d'Afrique, ils allaient dans les Antilles, puis là, pour exploiter les richesses repartaient vers l'Angleterre. Puis tout le monde en Angleterre, ben ça va rester de même, c'est de même. Un peu comme, c'est la loi, c'est comme ça, puis c'est fait. Mais eux, ils ont dit non. C'est des êtres humains faits à l'image de Dieu, ça ne peut pas continuer comme ça. Et j'aimerais vous amener juste un point pour un peu élargir la réflexion ce matin. Vous savez, l'idéologie, ce qu'on pense, ça affecte nos vies. Et j'aimerais juste vous amener quatre étapes de la subversion idéologique pour amener les gens à devenir esclaves d'une certaine idéologie. Puis on a vécu ça énormément en 2020-2021. La première étape, c'est la démoralisation. Où est-ce qu'on perd nos repères moraux qu'on avait avant? Mais c'est pas vrai que les repères moraux d'un gars, une fille, la sexualité, mariage, tellement d'affaires, la démoralisation, la perte des repères moraux. La déstabilisation, deuxième étape, c'est la perte des ancrages moraux. T'as plus de place où tu peux te réfugier. L'église, la famille, ces institutions qui étaient des ancrages moraux, déstabilisés, chacun dans son coin. Et la crise, c'est l'effondrement de toute la structure sociale. C'est le coup, pac, qui renforce les deux premiers points. Et une fois que tu es défaite et tout le monde est déstabilisé, c'est la normalisation. L'instauration de nouveaux repères, de nouveaux ancrages, de nouvelles structures. Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est Dieu qui dicte comment ça marche. Amen. Voyez-vous, je veux qu'on voit ça, je ne veux pas faire de la politique, c'est les politiciens qui nous forcent à parler de ça. C'est Dieu qui a fait le monde avec des lois qui régissent ce monde, et c'est à lui qu'on doit la loyauté, voyez-vous? Amen. Il faut qu'on comprenne ça parce qu'on entend des arguments fallacieux de la part de chrétiens qui voudraient qu'on se conforme au siècle présent, qui voudraient qu'on cède à la pression au nom de l'amour. comme si ce que Christ a fait, non, Christ n'a pas été contraint de le faire, il l'a fait lui-même, il l'a fait par amour. Et savez-vous quoi, si vous sacrifiez pour le bien puis le péché des autres volontairement, béni soyez-vous parce que c'est ce que Christ a fait puis c'est super, mais ne cédez pas à la pression d'être contraint de le faire. Parce que c'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. Et c'est la voix de Satan. Et dites, ouais, ça a commencé en 2020, j'espère que ça va finir bientôt. Non, ça a commencé en Éden. Ça a commencé dans le jardin d'Éden, c'est pas d'hier. Là, on l'a vu du temps de Moïse, on l'a vu du temps de Shadrach, Meshach, Abednego. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais là, nous, on le vit dans notre époque. Comme dirait M. Côté, c'est à notre tour d'être sur la glace. Comme au hockey, là. Mais je veux amener quelque chose ici. Et là, c'est mon appel, j'ai terminé. Le repère, l'ancrage, la structure de toute vie humaine, le repère, l'ancrage, c'est la croix du calvaire. Tout commence là, c'est le centre de l'histoire de l'humanité, c'est là que tout commence, c'est là que la vie commence, c'est de là que la vie jaillit au pied de la croix. Amen. Si vous êtes ici puis vous êtes perdu, vous êtes tout mélangé, vous n'avez plus de repère, tout ça, l'endroit pour retrouver là ce que vous avez perdu puis que vous n'avez peut-être encore jamais connu, c'est en Jésus-Christ, dans son œuvre, dans ce que lui a fait.
Amen.
Et c'est bon de vivre la démoralisation, la déstabilisation, puis même la crise, si ça nous amène à celui qui refait.
Amen.
Celui qui est la nouvelle normale. Moi, depuis que je suis sauvé, j'ai une nouvelle normale, puis je ne veux pas la changer.
Amen.
Parce que c'est la vie en Jésus-Christ. Et maintenant, si vous êtes ici, vous êtes un enfant de Dieu. Nos yeux ne devraient pas être sur les méfaits du collectivisme, ce que Satan fait, puis tu sais, Satan est derrière tout ça. C'est quoi, on le sait, c'est vrai. Mais nos yeux devraient être sur celui qui permet ces choses-là afin de se révéler, de révéler qui il est et quelle est son œuvre à ce monde perdu et à ses enfants qui ont besoin plus que jamais d'être inondés, que leur champ de vision ne voit que la croix de Christ et qu'on dise comme Paul, loin de moi la pensée, autre pensée que prêcher parmi vous Christ et Christ crucifié.
Amen.
Il avait les yeux fixés sur le calvaire. Pourquoi? Parce que le Dieu vivant, Christ ressuscité, avait saisi son cœur et il ne gardait que ça devant ses yeux. Et mes amis, un verset que j'aime tellement, puis on parlait de ça, je pense, c'est-tu vendredi, quand il est 3h33, je pense toujours à ce verset-là. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses grandes, des choses cachées que tu ne connais pas.
Amen.
Savez-vous que Dieu peut faire ça encore?
Amen.
Savez-vous qu'on a le même Dieu qu'on vient de lire dans les Écritures, qui n'a pas changé, qui est capable de faire des choses extraordinaires?
Amen.
Dieu qui a renversé des royaumes, qui a complètement mis sans dessus dessous la ville de Jérusalem, qui a fait une œuvre extraordinaire depuis tout ce temps-là. C'est encore le même qu'on adore aujourd'hui.
Amen.
Dans la petite église de Saint-Augustin. Qu'il n'y a pas grand monde qui remarque, mais Dieu est avec nous, puis Dieu nous remarque. Puis nous, on veut garder les yeux sur lui, parce qu'il est notre rémunération.
Amen.
Merci Seigneur pour ta parole vivante, ta parole qui rejuvenate, qui nous ravive, qui remet l'aplomb dans nos cœurs. Merci pour le peuple ici. Merci pour chacun. Je vois dans les yeux, il y a une soif de toi, il y a une joie du Seigneur. Seigneur, je veux te louer pour cette œuvre de grâce que tu fais. Seigneur, si ce n'était pas de toi, où est-ce qu'on serait? Mais Seigneur, on te remercie de ce qu'un jour tu nous as visités, de ce qu'un jour tu t'es révélé à nous. Et Seigneur, on veut garder les yeux sur toi parce que ce monde a tellement besoin. Seigneur, le monde est perdu et n'a aucune espérance en dehors de toi. Oui, la pression monte. Oui, les temps sont difficiles. Mais tu es au contrôle. C'est toi qui fais monter la pression. C'est toi parce que tu veux te révéler comme tu as fait monter la pression dans le livre d'Exode. C'est toi qui as fait en sorte que les briques, il fallait qu'ils les fassent avec moins de ressources. Parce que tu voulais montrer quelque chose par rapport à qui tu es et ce que tu fais. Et c'est encore pareil. Seigneur, c'est là-dessus qu'on garde les yeux. C'est sur toi. Sur tes promesses, sur ta personne. Et Seigneur, on te loue pour ça. Ah, si quelqu'un ici a tout perdu ses repères, n'a plus d'ancrage, est désemparé, qui voit que que tout commence au pied de la croix du calvaire. Si quelqu'un ici est sans Christ encore, qu'aujourd'hui il voit qu'il peut avoir la vie. Pas la religion, pas un credo, mais la vie par Christ. Si quelqu'un est ici sans Christ, qu'il invoque ton nom, qu'il voit que tu es le Dieu de toute grâce, qui fait miséricorde, à qui invoque ta grâce. Seigneur, pour nous ton peuple, ravive-nous. On veut prendre le temps de prier pour répondre à ce que tu nous as dit. Seigneur, dirige et bénis ce temps pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen.